7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation, comme chaque vendredi. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à ces adolescents qui ne font pas grand-chose en classe et à l'inquiétude grandissante des parents face à leurs mauvaises notes. Il ne veut pas travailler, il s'ennuie au lycée. Que faire? Comment le remotiver, l'aider à réussir? Les adolescents aiment, c'est vrai, les solutions visibles à court terme, comme une meilleure organisation du travail, mais il faut aussi les écouter pour mieux comprendre leur malaise et surtout négocier certaines règles de base. C'est pas simple pour des jeunes qui ne sont plus des enfants vraiment, mais pas tout à fait des adultes. On va en discuter avec nos invités. Isabelle Sandillon, coach scolaire auprès d'adolescents. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez « Au secours, mon ado ne veut pas travailler ». Je crois que c'est un cri de détresse que connaissent beaucoup de parents. Aux éditions Erol, vous êtes à Aix-en-Provence en liaison avec nous grâce aux moyens techniques de France Bleu Provence que nous remercions. Également avec nous dans le studio à Paris, Jeanne Siaud-Fachin, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes psychologue, psychothérapeute et vous allez nous aider à comprendre les mécanismes cognitifs, affectifs qui peuvent entraver la dynamique scolaire et personnelle. Et en plus, vous avez activé votre Facebook Live sur votre compte Facebook, donc on peut se connecter.
Absolument,
et vous
sur mon, voilà, Jeanne Siaud-Fachin. C'est un compte public, donc tout le monde peut venir.
Voilà, et puis aussi, notre émission est filmée, je crois qu'elle est sur Dailymotion. Voilà, et vous publiez Qu'est-ce qui l'empêche de réussir aux éditions Odile Jacob. On entendra aussi tout à l'heure le point de vue d'une enseignante et psychologue au lycée français de New York aux États-Unis qui s'intéresse beaucoup au développement socio-émotionnel des adolescents dans ce pays, tout à fait indispensable pour apprendre. Les voisins, quant à vous, et bien sûr les voisines, dites-nous comment vous gérez les crises de vos adolescents ou en tout cas le désintérêt pour la sphère scolaire. On attend vos questions, vos témoignages et vos détresses. Et bien sûr les grands frères et les grands sœurs, vous avez aussi la parole. Surtout si vous vous sentez un petit peu en charge de l'aide scolaire de vos petits frères et de vos petites sœurs adolescents. Le numéro de téléphone 33 1 84 22 71 71 et bien sûr tous vos messages sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter. Mais tout de suite, écoutez ce que disent les adolescents de leur travail scolaire et de leurs parents. Notre reporter Alice Milo les a rencontrés pendant la pause du déjeuner dans un collège du 13e arrondissement à Paris.
Je rentre de l'école, puis en général je me fais gueuler dessus à cause des problèmes que j'ai en cours. Comme je préfère ne pas tout le temps écouter, j'aime bien être dans les vapes, faire un peu ce que je veux. Et mes devoirs, je préfère les faire soit très tard le soir, soit très tôt le matin, parce que le temps que j'ai en rentrant des cours, je le consacre à moi-même.
Tu fais quoi justement en rentrant ?
Je prends mon ordinateur, je regarde la télé, je reste sur mon téléphone, je fais des choses que j'aime bien faire. Le peu de temps qui me reste, je fais mes devoirs. Et ça se passe pas très bien à la maison. Et du coup, quand je travaille pas à l'école, ça a des répercussions sur ma vie chez moi. Et du coup, je trouve ça assez énervant.
Quelle pression tes parents ils exercent sur toi à ce propos ?
Ils m'enlèvent tout ce qui peut me faire plaisir. Mon téléphone, mon ordinateur, tout ce que je peux me servir pour me distraire quand j'ai du temps libre.
Qu'est-ce que tu penses des punitions qu'ils t'infligent ?
Je m'en fiche totalement. Moi, en cours, je m'ennuie, alors je fais ce que je veux. Comme j'ai dit au début, on dirait de l'esclavage. On est là, on écoute quelque chose qu'on n'a pas envie d'écouter et on est forcé. Et si on n'écoute pas, et bah après on se fait punir et ça nous enlève une partie de notre vie à nous. Je trouve absolument pas ça utile parce que ça va pas changer ma manière de penser en cours. Et puis à la maison, je trouverai toujours autre chose à faire.
Finalement, qu'est-ce qui te ferait, toi, te mettre au travail ?
Qu'on apprenne des choses, mais pas du genre à apprendre à trouver un complément dans une phrase, parce que quand on lit, on va pas aller chercher où est le complément, où est le verbe, où est le nom. On dirait qu'on est des machines, qu'on est là seulement pour écouter et après recopier, puis à la fin être noté. Et nos notes, c'est ce qui va nous définir plus tard, mais c'est que des chiffres, c'est que des lettres, c'est que des écrits, ça veut rien dire.
Moi, mes parents, ils me laissent totalement faire ce que je veux, mais comme j'ai des bonnes notes, c'est pour ça qu'ils me laissent, parce que si j'avais des mauvaises notes, ils seraient derrière moi. Mais c'est pour ça que je travaille bien, parce que j'ai pas envie d'être tout le temps surveillée.
Finalement, c'est ta manière à toi d'avoir la paix.
Oui, voilà.
Non. Et toi, vas-y, tu bosses ou tu bosses pas ?
Moi, je suis pas bosseur parce qu'il y a des choses qui sont pas intéressantes. Moi, je bosse quand c'est intéressant.
Comment est-ce que vos parents, concrètement, ils s'y prennent pour vous mettre la pression, pour avoir
de... Non, moi, ils menacent. Ils me disent, si à la fin de l'année, tu redoubles, tu t'es viré, tu pars au bled. La vie me dit ça. Sans Mauritanie, y a rien, y a que du sable.
Ça, c'est une menace qui marche pour toi ?
Ouais. C'est pas bien de menacer les enfants. Faut qu'ils travaillent d'eux-mêmes.
Alors comment faire ?
Payer les élèves. En Norvège, tout ça, ils sont payés. Hein. 80 euros par semaine et je bosse de ouf. Genre, je deviens président de la République.
Ma mère croit en moi alors que je bosse pas. Et c'est sacrément unique. J'en profite un peu pour pas faire grand-chose. Et je suis en quelque sorte accro à tout ce qu'il y a chez moi. n'importe quoi pour moi vaut mieux que les devoirs. Donc dès que je fais un truc, par exemple, je peux me mettre à bosser à mon bureau, même pas deux minutes, que je trouverai une autre occupation, même totalement moisie, que personne ne ferait, même en prison, mais je ferai ça, à la place de faire mes devoirs.
Et donc, admettons, ta mère, elle arrive dans ta chambre, elle voit que tu travailles pas, qu'est-ce qui se passe?
Vous voulez que je l'imite? Alors toi, là, tu vas tout de suite. Elle me fait trop rire. Arrête. Je sais pas comment ça se passe dans ma tête. Je sais très bien que ce que je fais aura des conséquences, mais je le fais quand même, c'est instinctif.
Mes parents, ils mettent beaucoup la pression, parce qu'ils sont profs tous les deux. Bah, il faut pas que j'ai des notes en dessous de 16, par exemple. Donc, sinon, je suis privée de quelque chose.
T'es privée de quoi, par exemple?
De sortie ou de portable. Bah, je les remercie un peu pour ça, parce que du coup, j'ai des bons résultats, et voilà. Parce que je la mettrais pas moi-même, la pression. Donc, voilà.
Tu penses que t'es pas capable de te la mettre toi-même?
Non.
Comme moi, je suis en internat, du coup, ça me permet de travailler avec de l'aide et je comprends mieux les exercices. Mais je sais que quand j'étais à la maison, j'étais plus paresseux. Et l'internat, ça m'a permis de m'améliorer dans mon travail, mon comportement. Je suis mieux encadré, en fait. Et en fait, là, je peux pas sortir partout. Du coup, il y a tout pour faire mes devoirs. Il y a des surveillants qui m'obligent, des trucs comme ça.
Alors, tu penses que la solution pour mieux travailler, c'est d'aller à l'internat, alors?
Pour moi, peut-être.
7 milliards de voisins, c'est maintenant.
Voilà, je vous promets que Alice Milo n'a pas spécialement cherché une collection de cancres, hein, des adolescents comme les autres qui veulent qu'on leur fiche la paix. Et comme dit l'un d'entre eux, mieux vaut une occupation moisie que de faire ses devoirs, c'est tout dire. Jeanne Siofachin, on a l'impression qu'il y a quand même deux mondes qui s'affrontent, non?
Entre les ados et les parents?
Oui.
Je crois qu'il y a surtout une forme de pression qui pèse sur tout le monde et que les parents sont très soumis à cette pression, qu'ils ont peur. Et je trouve que c'est assez légitime parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une espèce de corrélation qui s'établit entre le fait de réussir à l'école et le fait de réussir dans la vie, ce qui est quand même une adéquation, une corrélation qui n'est pas tout à fait juste parce qu'on confond beaucoup réussir dans la vie et réussir sa vie. Les adolescents, ils sont plus dans cette notion de comment je fais pour réussir ma vie. Parce que eux, ils sont justement, vous disiez de reparler un petit peu de finalement qu'est-ce qu'un adolescent. Mmh. Et les adolescents, ils sont dans ce moment de passage. L'adolescence, c'est aller vers l'âge adulte et c'est aussi se construire par rapport à une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de ressentir, une nouvelle façon d'avoir des relations aux autres. Et avec toutes ces projections, il faut quand même continuer à aider nos ados, me semble-t-il, à rêver leur vie aussi pour pouvoir se construire dans un avenir dans lequel ils se sentent bien. Mmh. Donc c'est ça qui fait qu'il y a cette espèce d'écueil et peut-être beaucoup de conflits en tout cas hein, entre les parents et les adolescents.
Alors que justement, je m'adresse à vous Isabelle Sandillon, alors qu'un adolescent en plus supporte de plus en plus mal la surveillance de ses parents à cet âge-là.
Oui, tout à fait. Et je crois qu'on est vraiment là au cœur de la problématique, c'est-à-dire que à l'adolescence, vous êtes évidemment moins enclin à vous intéresser au travail scolaire et c'est beaucoup plus intéressant de sortir avec ses amis, d'avoir des discussions. Et la difficulté pour les parents, c'est que ils s'inquiètent forcément d'abord et souvent uniquement des seules notes, des seuls résultats scolaires, et c'est souvent l'arbre qui cache la forêt. Et du coup, là, quand vous entendez les témoignages de ces adolescents, de ces enfants, l'idée, et je pense qu'il y a deux éléments qui ressortent et qui sont importants, c'est d'abord le besoin de liberté, et ensuite, c'est justement...
C'est-à-dire que la sphère scolaire est vraiment vue comme une intrusion violente dans la liberté personnelle. Hein.
Ça, c'est ça.
Et n'est jamais évoquée la notion de plaisir d'apprendre, d'ailleurs.
Exactement, exactement.
Oui, mais justement, c'est-à-dire qu'à l'adolescence, peut-être plus qu'à n'importe quel âge, il y a cette notion de plaisir immédiat. C'est-à-dire que les adolescents vont se tourner vers ce qui va leur apporter du plaisir immédiat. Et c'est plus compliqué avec le plaisir différé. Oui. Et c'est ça, toute cette histoire d'effort. Oui. C'est-à-dire comment, effectivement, on peut permettre aux adolescents de se sentir aussi avec cette notion de sentiment de compétence et de satisfaction, alors qu'ils fournissent un effort qui ne va leur apporter un retour sur investissement de l'effort que plus tard. Et comme on est dans un monde de sursollicitation, les ados, ils sont plus dans la notion de plaisir. Mais justement, au niveau du cerveau, et ça je pense qu'Isabelle, vous serez bien d'accord avec moi, au niveau du cerveau, ce qui est important à comprendre et que les parents doivent entendre, c'est qu'il faut commencer toujours, quand on fait son boulot scolaire, par ce qu'on réussit bien. Il faut commencer par le chocolat. Vous savez, cette Exactement. Fameuse histoire du pain et du chocolat. Exactement. Eh bien, pour le cerveau, il faut commencer par le chocolat. Parce qu'à ce moment-là, on déclenche les hormones du plaisir, les
et
endorphines.
La spirale positive.
Exactement, ouais. la spirale ouais. positive. Ouais. Ouais. On déclenche la dopamine, qui est cette fameuse hormone de la motivation. Et à ce moment-là, l'ado dans sa tête, il se dit « yes, I can ». Et à ce moment, il va enclencher les processus. Si vous commencez par ce qui ne va pas, les choses les plus difficiles.
L'exercice de maths sur lequel on a buté voilà, pendant le cours.
Voilà, et bien ça, effectivement, c'est le stress qui s'invite. Et là, c'est le cortisol. Et le cortisol, c'est un poison pour le cerveau. Et ça empêche complètement d'avoir un espace dans la tête pour apprendre.
Oui, et puis je pense qu'il faut aussi pouvoir se mettre à la place de son ado. Ils ont des emplois du temps scolaire qui sont souvent très lourds. Et imaginez-vous, vous, quand vous rentrez d'une journée de travail, si vous aviez un membre de votre famille qui vous dit, bah voilà, maintenant tu vas écrire une petite rédaction sur ce que tu as fait dans la journée. Ensuite, tu vas faire quelques exercices de mathématiques qui correspondent à ce que tu as pu faire à l'épicerie et qui vont t'aider pour demain. Et ensuite, tu vas apprendre quelques mots en anglais. Alors évidemment, c'est pas réjouissant. Vous sortez d'une journée de travail. Et c'est compliqué. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les parents soient capables de prendre du recul, de prendre de la distance et de se dire finalement, ce stress que je vais imposer à mon adolescent en lui disant bah, « va travailler, t'as eu des mauvaises notes, pourquoi t'as pas fait tes devoirs ?» Ce stress-là, il est pas productif, il l'aide pas au quotidien. Et il faut bien se mettre dans la tête aussi et se dire qu'un enfant qui a de mauvaises notes au collège ou au lycée, c'est un enfant qui souffre. C'est pas rigolo d'avoir des mauvaises notes, c'est pas rigolo d'avoir de revenir avec un bulletin trimestriel avec des notes qui ne sont pas bonnes. Donc ça veut dire qu'il faut aussi être capable en tant que parent de pouvoir mettre en place un cadre qui l'aide à s'autonomiser et qui l'aide lui à construire ses petits chemins en ayant des libertés. Parce que pour les adolescents, c'est ça qui est important.
Ne pas sous-estimer donc le stress des adolescents qu'ils cherchent d'ailleurs souvent à masquer par des ricanements et de petites provocations où on se dit « oh bah, il n'est pas stressé du tout, il s'en fiche complètement », ce qui en réalité peut être tout à fait faux.
Ce qui n'est jamais vrai. Oui. Ce qui n'est jamais vrai parce que et les enfants, tous les enfants, tous les adolescents ont envie de réussir. Vous faites un créneau, vous avez envie de le réussir, vous faites votre émission, vous avez envie de la réussir. Et les enfants ne sont pas exemptés de ça. Et comme le disait Isabelle avec justesse, tous les enfants qui sont en difficulté sont des enfants qui souffrent de ne pas réussir à la hauteur de ce qu'ils souhaiteraient.
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On continue bien sûr avec vos analyses et vos conseils, Isabelle Sandillon et Jeanne Siaud-Fachin. Notre numéro de téléphone de standard qui vous attend, 33 1 84 22 71 71. Appelez-nous si vous avez eu des relations difficiles avec vos parents à l'époque de l'adolescence et si vous êtes maintenant à peu près sorti d'affaires en tant qu'étudiant ou bien tout simplement si vous-même vous êtes parent et que vous vous posez des questions pour sortir d'une spirale infernale de mauvaises notes avec vos enfants. Archive Golden City chez 7 milliards de voisins sur RFI. On parle des adolescents qui ont des difficultés scolaires. Vous nous le disiez il y a quelques minutes, Jeanne Siaud-Fachin, tous les enfants et donc bien sûr les adolescents veulent réussir, même quand parfois ce qu'on voit apparaître d'eux, de leur personnalité, c'est vraiment une grande forme de désinvolture. On l'a entendu d'ailleurs dans les témoignages en début d'émission. Ils veulent surtout avoir du temps libre pour eux-mêmes, pour leur propre vie, plutôt que de passer du temps à faire leurs devoirs. D'où évidemment, s'ensuit parfois une cascade de mauvaises notes. Une question de Michel sur notre fil Facebook qui est à Kisangani en République démocratique du Congo. Il nous dit que jeune, concernant le travail à l'école, lui, sa relation avec ses parents était difficile. C'était un frein à sa liberté, mais en même temps, il excellait à l'école. Ça a été différent pour mes frères et sœurs. Il se pose la question, pourquoi les relations sont différentes avec les parents au sein d'une même famille? Pourquoi les parents ne traitent-ils pas tous leurs enfants exactement de la même façon?
Parce que tous les
c'est vrai qu'il peut y avoir une très forte pression sur l'aîné, alors qu'il travaille bien, mais on va l'embêter en permanence. Et puis sur les suivants, ça va être beaucoup plus déstressé.
C'est-à-dire que contrairement à une forme d'illusion, on n'a pas les mêmes relations de toute façon, quoi qu'il arrive, avec chacun de nos enfants. Et puis, bien évidemment, cette question du travail scolaire est tellement au centre des préoccupations croisées des enfants, des ados et des parents, que bien évidemment, lorsque il n'y a pas ce, entre guillemets, problème-là, les parents vont être plus facilement en lien et ils vont être rassurés. Parce que les parents, c'est compliqué d'être parent. Parce que il y a une espèce de corrélation, comme si être un bon parent, c'est avoir un enfant qui réussit bien à l'école. Et à ce moment-là, on a topé la case, je suis un bon parent. Et
Socialement, c'est comme ça que c'est vu.
Mais
en
oui,
tout cas,
mais parce que quand vous rencontrez d'autres parents, quelle est la première question que les parents se posent entre eux? Et toi, ton enfant, comment ça va à l'école? Et quand vous avez un enfant en difficulté scolaire...
On lui demande pas ce qu'il aime le foot.
Mais oui, et quand vous avez un enfant en difficulté scolaire, le parent se sent coupable. Moi, je trouve ça tout à fait violent pour les parents.
On est en ligne avec un auditeur qui nous appelle de Cotonou. Bonjour Rachad.
Oui, bonjour Emmanuel, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Mondiale.
Rachad, vous n'êtes plus vraiment un adolescent, vous avez 24 ans, mais vous avez envie de revenir sur ces années qui sont assez récentes derrière vous.
Absolument Emmanuel.
On vous écoute Rachad.
Emmanuel, j'étais encore en terminale, donc j'ai travaillé à temps partiel avec un monsieur qui un jour me disait, voilà Rach...
C'était un opérateur de téléphonie mobile.
Absolument. Mmh. Et il me disait que voilà, aujourd'hui, je vais t'embaucher de façon définitive.
Oui.
Donc, que j'attendais depuis fort longtemps et pour moi, c'est parfait pour moi.
C'est ça. Là, émerveillement, vous êtes lycéen en terminale, on vous propose du boulot, un boulot fixe et vous vous dites c'est formidable. Sauf qu'à la maison, ça se passe mal.
Absolument. Donc, j'ai été avisé, mes parents, et donc, c'est tout le contraire. Donc, mon papa, il a été catégorique, il me dit non. Non, ça, et tu vas pas le faire parce que je vais pas payer ta scolarité. Et donc, pour que tu délaisses les bancs du jeu le lendemain, voilà, pour un travail précaire, voire même sous-rémunéré, pardon. Mm-hmm. Donc, c'est non, tu vas continuer les études. Donc, le bac d'abord, et il en rajoute encore un déjà que voilà.
Ça, c'était une grosse crise à la maison?
Oui, absolument. Et donc, quand il me l'a dit, donc moi, je n'ai pas aimé sa réaction. J'étais très furieux, j'étais mécontent, très furieux. Donc, moi, je me suis dit que c'était une opportunité, peut-être, pour m'affirmer. Mais c'est tout le contraire. Donc, ma surprise est que et tous mes frères se sont ralliés du côté de papa. Ils disent que voilà, Rachel, c'est comme ça. Ça se passe. C'est
ah oui, vous aviez toute la famille contre vous. Donc finalement, vous n'avez pas pu abandonner la terminale pour aller travailler, puisqu'il y avait l'autorité paternelle. Et aujourd'hui, alors?
Aujourd'hui, quand il me l'a dit, j'ai dû continuer malgré ce petit entente qu'il y avait entre nous, parce que moi, j'ai commencé à sécher les cours. Donc je l'esquivais même parfois à la maison, mon papa, pour ne pas le voir. Mmh. Donc il a eu raison de moi, ça a duré toute l'année, mais il a eu raison de moi et je l'ai décroché mon examen. Donc je me suis dit...
Vous avez eu votre bac et vous êtes étudiant aujourd'hui ou vous travaillez, Rachad?
Non, j'ai fini ma formation, j'ai déjà fait 3 ans à l'université après ma licence. Donc je suis actuellement avec un cousin. Donc,
aujourd'hui, vous vous mettez à la place davantage des parents ou des adolescents à l'âge que vous avez, Rachad?
Donc je crois que je me mets un peu à la place des parents parce que les parents ils font une projection.
Ouais, c'est pas simple comme boulot d'être parent. Merci à vous Rachad de nous avoir appelé. Vous restez avec nous, Jeanne Siofachin et Isabelle Sandillon. Votre adolescent ne veut pas travailler, appelez-nous les parents maintenant, on a envie de vous entendre. 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans un peu plus de 3 minutes, juste après le flash sur RFI.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, on parle éducation. Comme chaque vendredi, on s'intéresse à ces adolescents, souvent qualifiés de paresseux, en tout cas très désinvoltes. Jeanne Ciot-Fachin, vous êtes avec nous dans le studio, vous êtes psychologue, psychothérapeute. Oui, quand je dis paresseux, vous bondissez.
Hein. Oui, j'adore.
Parce J'ai dit qualifié. Hein.
Oui, mais justement, parce que il n'existe pas d'enfant paresseux. Et ça, tous les professionnels, nous sommes tous d'accord. Il n'existe pas d'enfant paresseux, il existe des enfants qui ont du mal à être motivés, et que c'est ça qui est important. Et de comprendre qu'est-ce qui fait que certains adolescents n'arrivent pas non plus à considérer que cet effort pour le travail scolaire peut aussi avoir une forme de satisfaction et y trouver du plaisir, on le disait déjà tout à l'heure.
Isabelle Sandillon, vous êtes coach scolaire et vous êtes à Aix-en-Provence avec nous, vous êtes d'accord avec ça?
Tout à fait, et j'ajouterais même qu'il n'existe pas d'enfant nul. Et je crois que c'est un message important à faire passer, c'est que être nul n'existe pas. On peut tous, et nos adolescents en particulier, quels que soient les lacunes qu'ils ont pu accumuler, quelles que soient les difficultés qu'ils rencontrent et le niveau de départ, ils peuvent tous retrouver, réasseoir leur confiance scolaire et retrouver le chemin de la réussite.
Ouais. Alors c'est bien joli, mais il va falloir quand même qu'on donne des conseils pratiques, précis, concrets pour les parents, hein, parce que ça, ils veulent bien l'entendre, mais comment faire? Appelez-nous les voisins pour dialoguer avec nos experts, pour poser aussi des questions si vous êtes confrontés vraiment à des difficultés précises avec vos adolescents. On vous rappelle notre numéro de téléphone et ensuite on laisse la parole à une enseignante française aux États-Unis, tiens, justement sur la paresse. Écoutez le numéro.
7 milliards de voisins, c'est l'émission pour tous, pour les voisines et les voisins.
Les voisins, les voisines, j'ai un numéro de téléphone pour vous.
33 1 84 22 71 71.
Et c'est maintenant, appelez vite. On vous attend.
Nous sommes en ligne avec une enseignante au lycée français de New York. Bonjour Nathalie Anton.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes aussi psychologue et chargée d'un pôle bien-être des élèves au lycée. Vous publiez « Non, votre ado n'est pas feignant » aux éditions Erol. Dites-nous quelle est l'approche des Américains sur ce qu'on appelle communément la paresse des adolescents.
Oui, tout à fait. Ils ont ce qu'ils appellent l'apprentissage socio-émotionnel qui se développe depuis plusieurs années maintenant, qui part d'un principe très simple, hein, qui est qu'un enfant apprend mieux quand il est dans des bonnes conditions, quand il se sent soutenu par ses enseignants, quand il a de bonnes relations avec ses camarades, il a de bons rapports avec l'enseignant, et que donc on lui apprend par exemple à mieux gérer ses émotions, à mieux se connaître, à tisser des relations qui sont saines, constructives.
À quoi vous pensez typiquement un problème récurrent sur lequel on va avoir des solutions différentes à partir de l'apprentissage socio-émotionnel?
Le stress, par exemple.
Ouais.
On sait que le stress n'est pas du tout favorable à l'apprentissage et encore moins à la restitution de ce qui a été appris. Donc, apprendre aux enfants à savoir quand est-ce qu'ils éprouvent du stress, comment faire pour anticiper ces montées de stress. Et puis après, une fois que le stress est là, comment faire pour le gérer. Ça, typiquement, quand on prend le temps de se pencher avec eux sur ces questions...
Avant un examen, un contrôle de connaissances, par exemple.
Hein. C'est vraiment d'anticiper, c'est-à-dire pour éviter que ce stress puisse se manifester. Par exemple, si c'est un problème d'organisation, on va aider l'enfant à mieux planifier, à mieux organiser son emploi du temps, etc. Donc ça peut être juste d'anticiper, mais ça peut être également, au moment où le stress se manifeste, des techniques pour le gérer.
Quelles sont les difficultés que vous constatez le plus souvent chez les adolescents et leurs parents aussi?
Le plus souvent, je pense que c'est une sorte d'incompréhension, c'est-à-dire que les parents ne comprennent pas pourquoi leur enfant est en difficulté à l'école. Et l'enfant lui-même ne le comprend pas, donc il y a une sorte de flou, parce que les parents souvent ne savent absolument pas quel est le problème de leur enfant. Ils viennent en disant justement, il ne travaille pas assez. Et même l'enfant n'est pas capable vraiment d'identifier quelle est sa difficulté. Donc c'est un travail vraiment où il faut démêler, il faut discuter, il faut prendre le temps en fait. Et les injonctions, fais ci, fais ça, ça n'a pas beaucoup d'impact en fait.
Qu'est-ce qui marche alors?
La bienveillance, beaucoup, l'écoute, la patience... Et c'est vrai que les élèves ont besoin qu'on les accompagne dans anticiper les devoirs, c'est-à-dire ne pas arriver la veille pour le lendemain avec une dissertation à faire sur laquelle on va passer la nuit. Donc il faut réussir à...
Ça semble évident, mais en fait, pour les parents, ça ne l'est pas tant que ça. Ils ne le font pas, cette anticipation. Ils ne veillent pas suffisamment à l'organisation du travail de leurs enfants quand ils sont adolescents, vous pensez ? C'est ce que vous constatez ?
Je comprends un peu, parce que finalement, ça devient une guerre aussi. Donc il est normal que les parents laissent de l'espace à l'adolescent.
Alors conclusion, comment laisser de l'espace tout en l'aidant à s'organiser quand ils sont adolescents et qu'en même temps, ils veulent de l'autonomie ?
Eh bien, d'abord, ça se travaille en amont, pas quand ils ont déjà 17 ans ou 16 ans, donc c'est un travail. C'est un partenariat, une collaboration, un échange. C'est toujours l'idée de se dire, je suis pas là pour te réprimander, je suis pas là pour te dire que tu fais mal, je suis là pour essayer de trouver avec toi des solutions qui vont te permettre de mieux gérer ton temps, te permettre de finalement mieux balancer le temps que tu veux passer avec tes amis et le temps que tu peux passer sur ton travail scolaire. Il y a plein d'ados, par exemple, qui savent pas quand ils se couchent avec leur portable dans leur lit. Ils vont perdre une heure en moyenne de sommeil. Et cette heure de sommeil, ça va être un problème le lendemain pour se concentrer, etc. Ou quand ils se réveillent en plein milieu de la nuit, ils vont regarder leur mail, etc. Et hop, c'est parti, ils vont reperdre encore 45 minutes. C'est des choses toutes simples, finalement, à leur expliquer, dont ils n'ont pas forcément conscience.
Exactement, il faut en avoir conscience.
Voilà. Parce que finalement, les parents veulent que leur enfant réussisse, mais franchement, les enfants, ils veulent aussi réussir.
Merci beaucoup Nathalie Anton, vous publiez Non, votre ado n'est pas feignant, comprendre et accompagner les difficultés scolaires de votre enfant. Merci.
Merci beaucoup.
7 milliards de voisins.
Et aujourd'hui on dit quoi ?
J'ai aimé le nom 7 milliards, parce que nous sommes 7 milliards d'habitants sur la Terre, et voisins, parce que nous sommes tous des voisins.
Isabelle Sandillon, vous vous interrogez souvent les adolescents sur leur méthode de travail ?
Oui, je pense que cette méthode, elle est importante. Puis il faudrait peut-être préciser d'abord qu'une méthode de travail, c'est finalement tous ces petits chemins qu'on va construire et qui vont faire qu'on va s'approprier la connaissance. Ça va être à la fois un canevas qu'on va poser sur un cours ou une leçon pour pouvoir l'apprendre, c'est-à-dire qu'on va en ressortir par exemple les éléments principaux pour l'apprendre. Ça va être la façon plus globale dont on va s'organiser en respectant un planning, parce que de façon concrète, par exemple, moi je propose aux parents de mettre en place un planning où c'est l'adolescent lui-même qui va fixer les plages de travail, les plages horaires qu'il va consacrer à ses devoirs et ses révisions. Donc ça fait partie aussi de la méthode de travail. Et bien sûr, c'est tous les petits chemins qui vont se faire dans notre tête, qui sont souvent transversaux, c'est-à-dire qui sont pas liés à une matière en particulier et qui peuvent se faire autour d'une tâche, par exemple, en disant, ben voilà, moi, quand j'apprends par cœur, c'est beaucoup plus facile pour moi quand je me déplace dans la pièce et quand je récite à haute voix. Ou en disant, ben, quand j'ai un contrôle de mathématiques qui va arriver, je sais qu'il faut que je fasse 10 exercices pour préparer ce contrôle. Ou en disant, j'ai une leçon en géographie, je vais m'entraîner sur des supports vierges, sur des cartes. Donc, tout ça, ça constitue finalement la méthode de travail de votre adolescent. Et le moyen de l'accompagner, le moyen de l'aider au départ pour qu'il trouve ses propres chemins, c'est sans doute de commencer... L'interroger et puis l'aider, le guider au moment où il va faire ses premiers devoirs avec vous, c'est-à-dire vous engager dans cette nouvelle démarche en lui disant ben moi je vais vraiment te guider, je vais t'aider, et c'est l'aider aussi à lui montrer qu'il y a des ressources.
C'est pas facile avec un adolescent de 14 ou 15 ans, il va se dire
non, mais peut-être que le chemin, justement, comme dit Isabelle, peut-être que le chemin, c'est aussi, enfin en tout cas moi je l'ai souvent remarqué avec les ados, c'est que les ados, ils trouvent que leurs parents, ils s'intéressent même pas au contenu des choses qu'ils apprennent, et que je crois que c'est un peu comme c'est la même histoire qu'avec les jeux vidéo. Au lieu d'engueuler, de poursuivre ces ados sur les jeux vidéo, moi j'aimerais bien que les parents de temps en temps se posent 5 minutes et regardent ce que fait l'ado avec son jeu, qu'est-ce qui se passe exactement dans ce jeu, qu'est-ce qui fait que l'ado est intéressé par ce jeu, et de discuter de quelles sont les stratégies que l'ado va mettre en place dans ce jeu et comment on va pouvoir transférer ces stratégies pour le travail scolaire. De la même façon, c'est important avec les ados en particulier, parce qu'avec les enfants plus jeunes, quelquefois c'est plus facile, pas toujours, hein. Mais avec les ados, de pouvoir s'asseoir en disant « Waouh, qu'est-ce que tu fais en ce moment en histoire, en géo, en maths, en SVT ? Ah mais qu'est-ce que moi je me souviens de mes cours ? Ah c'est marrant, toi, vous apprenez ça comme ça, et qu'est-ce que tu en comprends ? Et qu'est-ce que toi tu en retiens ? Et qu'est-ce que toi est important ? Et voilà moi ce que j'en ai retenu. »
Une conversation mais, autour
c'est
ça, du sujet de l'apprentissage.
C'est-à-dire qu'il y a un dialogue, qu'il y a un dialogue autour du contenu, parce que les ados aussi, ils comprennent pas le sens. L'autre jour, il y a un ado qui me disait « Non mais attendez, pour de bon, est-ce que vous, dans votre vie, une fois, vous utilisez un compas ?» Alors, effectivement, les parents sont souvent un peu dépités quand on leur dit une chose pareille. Mais Je crois que c'est intéressant parce qu'un compas, évidemment qu'on ne s'en sert pas, mais c'est de pouvoir expliquer que c'est la démarche de comprendre à quoi peut servir un compas, non pas pour faire des cercles quand on est grand et faire des espèces de rosaces, mais pour comprendre les notions d'espace et d'avoir ce dialogue, c'est-à-dire d'instaurer ça et surtout d'instaurer ces possibilités de... J'ai beaucoup aimé le témoignage là de la... c'est la feeling good manager du lycée de
au lycée français de New York
au lycée français de New York. J'ai entendu qu'elle était en charge du bien-être, donc ça, évidemment, je ne peux qu'apprécier une chose pareille, parce que ce qu'on voit bien aussi aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les compétences transversales, c'est-à-dire que il vaut beaucoup mieux travailler autour et pour la confiance en soi, le fait que l'ado se sente bien dans sa vie et dans ses pompes, plutôt que de s'acharner à lui faire rentrer des connaissances dans la tête.
Bon, oui, si vous le voulez bien, alors attendez, on a des auditeurs qui veulent vous poser des questions, mesdames. On a Séverin qui nous appelle de Libreville au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Séverin.
Bonjour.
Votre fils a 14 ans, quel est le problème?
Il a deux comportements différents. Il y a un comportement qu'il adopte à l'école. Et un comportement qu'il adopte à la maison. À la maison, c'était un enfant poli, respectueux, sage, attentif. Et au regard de ce comportement, il est très curieux quand il faut poser des questions. Mais à l'école, c'est toute une autre personne. Récemment, il a fait une fuite. Nous sommes allés chercher son bulletin et nous nous sommes rendus compte qu'il a eu 5 de moyenne trimestrielle. Et là, on tombait tous des nuits.
Oui.
On tombait tous des nuits.
Il est en quelle classe,
comment. Il est en cinquième. Et on ne comprenait pas comment un enfant qui a tous les agrès possibles pour réussir, que ce soit les outils informatiques, que ce soit les ressources humaines, parce que nous-mêmes, nous avons fait des études.
Alors, en fait, ne comprenez pas pourquoi cet enfant semble avoir deux personnalités, hein, attentif, curieux de tout à la maison, et puis à l'école, dans un rejet. Isabelle Sandillon, est-ce que vous avez des pistes d'explication à fournir sur ce problème-là?
Alors, je dirais que c'est presque un grand classique. C'est-à-dire que nos enfants ont souvent un comportement qui va différer entre l'école et la maison. Et je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir s'interroger d'abord soi-même et ensuite en discuter avec son enfant pour essayer de comprendre si là, on dépasse le simple cadre de l'adolescence et la manifestation liée à cette période de bouleversement. Et dans quoi on est exactement? C'est-à-dire essayer de comprendre si ça tient à une matière en particulier, est-ce que ça tient à son établissement scolaire, est-ce qu'il a changé d'établissement cet enfant, est-ce que ça passe pas avec un professeur, ce qui est tout à fait possible, est-ce que c'est peut-être dans les lacunes qu'il a pu accumuler, donc il faut essayer d'en discuter avec lui pour comprendre.
Est-ce que c'est vrai, vous avez pu avoir une conversation seul à seul avec lui tranquillement et une conversation longue?
Toute la famille
est mobilisée. Oui.
Avant, on pensait, tant puisqu'il restait d'abord avec sa maman, nous ne sommes plus ensemble, on pensait qu'il était maltraité au sein de sa famille maternelle. Les informations qui nous parviennent de là-bas nous poussaient à plus chercher pourquoi le comportement de l'enfant dérivait. Je l'ai pris à la maison, je lui ai donné un cadre plus ou moins idéal, et là, nous remarquons que les mêmes faits reviennent. Vraiment, il est difficile, parce que l'écoute, nous discutons énormément. Et quand vous discutez avec lui, il pose des questions, il est réactif, il ne se renferme pas sur soi. Ouais.
Donc il y a peut-être un rejet dans l'établissement, dans ses relations avec les professeurs.
Avec ses camarades aussi, peut-être.
À l'école. À l'école, nous sommes allés à l'école, c'est quelqu'un, lorsque vous arrivez, vous demandez le nom de l'enfant, tout de suite, on le reconnaît. C'est-à-dire qu'il n'est pas maltraité, mais par contre, c'est lui qui mène le jeu.
Ouais.
C'est
ça, donc il est très occupé par cette activité de leader, du coup. C'est peut-être ça aussi qui fait qu'il a des choses plus importantes à faire, notamment être très populaire dans son établissement, Séverin.
Oui, peut-être que ce qui est important, parce que effectivement, ça arrive assez fréquemment que des enfants qui pouvaient, on le disait, Emmanuel, que des enfants qui peuvent être sans difficulté pendant longtemps, pendant le primaire, peuvent se retrouver justement autour de ces classes de 5e, 4e. Tout d'un coup, il y a une forme de bascule, parce que ils se sont beaucoup appuyés sur des compétences assez naturelles, par exemple sur la mémoire, dans une période en primaire où finalement le travail scolaire consiste essentiellement à restituer. Et puis autour de la cinquième, de la quatrième, à ce moment-là, il faut mettre en place des mécanismes d'apprentissage, des processus d'apprentissage que certains de ces enfants, de ces adolescents, enfin de ces enfants en train de devenir adolescents, n'ont pas appris à mettre en place. D'une certaine façon, pour employer cette terminologie classique, ils n'ont pas appris à apprendre.
On a un autre auditeur. Merci de nous avoir appelé, Séverin. J'espère que les conseils que vous avez entendus, notamment peut-être tout simplement se remettre au bureau avec votre fils pour regarder mieux comment il s'organise aussi dans son travail et comment il travaille et comment il assimile les connaissances pourra vous aider. Merci à vous, Séverin. Un autre auditeur nous appelle, Achour. Bonjour, Achour.
Oui, donc je suis le papa d'un adolescent donc qui a 16 ans. Et je voulais vous faire part, en fait, de notre désarroi, de sa maman et moi, et de notre grande impuissance. Donc, il est en seconde, il fait une deuxième seconde pour lui donner une deuxième chance. On a l'impression que dès lors qu'on ne parle pas de scolarité, tout va bien. Et dès lors qu'on en parle, eh bien, c'est la fin du monde, si j'ose dire. Et qu'on ne l'aime pas, puisqu'on parle de travail, et qu'on n'aurait que ça dans la bouche. Voilà, et c'est extrêmement...
Alors, comment sortir de ça, Isabelle Sandillon? Comment sortir de cette spirale affective?
Je pense que c'est un message à entendre. Quand il vous dit ça, c'est peut-être aussi qu'il a besoin, justement, que vos rapports ne se cristallisent pas seulement sur ses résultats scolaires et sur le travail scolaire, mais vous puissiez vous offrir des parenthèses à côté. Et moi, je conseille souvent aux parents de partager un maximum d'activités avec leurs adolescents, des activités qui leur font plaisir, d'abord, et ensuite, de pouvoir aussi, à des moments où la relation de nouveau se tend, où vous sentez qu'il y a de nouveau des crispations et que chacun reprend finalement, quelque part, ses mauvaises habitudes, de pouvoir partager des activités qui vont être des moments émotionnellement forts. C'est-à-dire où vous allez vivre, vous aussi, des émotions pour la première fois, des activités que vous allez faire pour la première fois avec votre adolescent. Je crois beaucoup à ces moments-là partagés, où on va retrouver finalement ce qui nous lie à nos enfants et ce qui est unique, qui est le lien filial, qui est l'amour qu'on leur porte et qui est le fait que finalement, quoi qu'il arrive, on va toujours être là et on va être à leur côté. Il faut savoir couper, je pense, à un moment donné complètement avec les discussions autour du travail scolaire et autour des notes pour pouvoir se retrouver simplement dans un lien filial, un lien d'amour.
Par exemple, pratiquer une activité que votre adolescent aime bien et se décentrer du résultat scolaire, même si il peut y avoir urgence à certains moments. C'est ce que vous
exactement,
voulez dire finalement.
Exactement.
Jeanne Siofachin.
Oui, bien sûr, je suis d'accord avec cette idée-là. Et en même temps, je pense que dans le cas qui vient de nous être raconté par cet auditeur et avec cette ado
en
seconde.
Qui est toujours en ligne avec nous,
Achour. Oui, Achour. Moi, je crois aussi qu'il y a un moment où il faut poser les choses. C'est-à-dire que peut-être que cet adolescent-là, il a aussi, parce qu'il faut qu'on en parle, une difficulté d'apprentissage spécifique. Parce que ça arrive aussi. Et que quelquefois, les enfants ont réussi à compenser pendant très longtemps. Et que tout d'un coup, eh bien... Par exemple, une difficulté, ce qu'on appelle ce fameux club des 10, vous savez, les dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, qui sont des troubles des apprentissages qui sont spécifiques.
Est-ce que vous avez, par exemple, éliminé ces troubles-là, Achour, ou pas ?
Et un long suivi qui a été mis en place par des grands professionnels sur Paris. D'ailleurs, lequel je vous appelle, là, il y est avec sa psychologue, sa maman est avec lui. Moi, j'ai pas pu me déplacer pour des raisons de santé, mais c'est un suivi qui est de longue haleine. Oui. Je voulais rebondir sur ce que disaient les professionnels sur le plateau. On ne focalise pas sur le travail scolaire. Oui. On mène les deux en parallèle, mais ils sont accolés. Les deux sujets sont accolés. Oui. Les activités extrascolaires et la scolarité sont indissociables.
Bien sûr.
On ne peut pas faire l'économie l'un de l'autre. En tout cas, il n'y a pas d'exclusivité de l'un face à l'autre.
C'est pour ça que c'est important aussi par moment, je ne sais pas quel est le suivi de votre fils, bien sûr, mais après, c'est pas forcément de l'ordre de la psychologie, mais quelquefois de l'ordre de faire un bilan comme une carte du territoire pour savoir comment on va avancer avec cet enfant-là, ce moment-là, et que s'il y a peut-être comme un caillou dans la chaussure, il faut absolument repérer de quoi il s'agit précisément pour pouvoir mettre en place l'aide qui sera la plus ajustée, la plus adaptée, parce que vous souffrez de cette situation, votre fils souffre de cette situation et que forcément il peut y avoir, obligatoirement on peut trouver, avoir un éclairage pour pouvoir réajuster les choses parce que c'est vraiment une situation compliquée et vraiment faire des bilans pour explorer comment pense l'enfant, comment il construit ses raisonnements, qu'est-ce qu'il met en place au moment où il apprend, mais peut-être aussi où est-ce qu'il en est sur un plan affectif, ça pourrait aider à mieux comprendre pour aider. C'est vraiment cette notion de carte du territoire pour avancer.
Isabelle Sandillon, il nous reste quelques secondes. C'est vrai qu'on a beaucoup dit tout de même que les parents doivent un peu changer de logiciel, même s'il ne s'agit surtout pas de les culpabiliser, parce qu'on le disait, c'est quand même très compliqué hein, de remettre oui, des adolescents au travail. S'il y avait un ou deux conseils qu'on devait absolument retenir, il nous reste 30 secondes.
Écoutez, c'est d'abord d'être capable, peut-être dans un premier temps et dans une première étape, de prendre de la distance et de s'interroger sur le lien de son ado à sa scolarité de façon globale. Ensuite, il faut pouvoir remettre en question, il faut accepter de pouvoir se remettre en question sur le lien qu'on a posé nous et lui offrir un cadre qui lui permette d'avoir de la liberté et d'en retirer des avantages. Et ça, c'est par exemple lui laisser lui faire son planning, ce dont je parlais tout à l'heure, et toujours réintroduire du jeu, de la joie, du rire.
Et
c'est
du plaisir
très important.
Pour apprendre. Merci à toutes les deux, Jadzio Fachin, vous publiez Mais qu'est-ce qui l'empêche de réussir aux éditions Odile Jacob. Et merci à vous, Isabelle Sandillon, à Aix-en-Provence, vous publiez Au secours, mon ado ne veut pas travailler aux éditions Erol. Tout de suite, la chronique de Marie-Rose Moreau. Les enfants comprennent-ils ce que c'est que la mort et à quel âge ?
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau, chaque vendredi chez 7 milliards de voisins. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Emmanuel.
Un rendez-vous pour nous aider les parents à réfléchir aussi bien sur les évolutions de la famille que bien sûr à la façon dont leurs enfants grandissent, parfois dans beaucoup de métissage. Sujet d'aujourd'hui, est-ce que les enfants comprennent ce que c'est que la mort et à quel âge ?
Ouais, sujet difficile, mais évidemment les enfants sont confrontés à la question de la mort régulièrement. Alors on dit dans les livres que les enfants, ils acquièrent l'idée que la mort existe, c'est-à-dire une séparation définitive d'avec les vivants vers 6 à 8 ans. Mais en réalité, ça dépend vraiment du contexte dans lequel vivent les enfants, mais même aussi de la géographie. Si l'enfant a été confronté à des morts à l'intérieur de la famille ou dans la société parce que c'est la guerre, parce que c'est difficile, il va l'acquérir beaucoup plus tôt en réalité. Mais disons qu'il y a un moment où l'enfant, il prend conscience que la séparation est définitive et qu'il n'est pas simplement parti en voyage et qu'il va revenir. Mais il y a aussi des variantes, c'est-à-dire il y a nous, en Europe, on sépare beaucoup les morts des vivants et il y a d'autres endroits, par exemple en Afrique, où les morts sont beaucoup plus proches des vivants. Et donc, du coup, les enfants vont aussi se représenter un peu différemment la mort.
Néanmoins, tous les parents, à un moment donné, qui sont confrontés à la mort pour leurs enfants, dans leur famille, se demandent comment ils doivent parler de la mort aux enfants, même s'il y a des traditions qui sont bien établies.
Il y a des traditions différentes, donc il y a des endroits où on va associer les enfants aux obsèques, aux rituels, aux cérémonies, d'autres moins. Mais de toute façon, il est important de parler directement aux enfants de la mort. Après, on respecte les rituels, mais leur dire ce qui s'est passé, telle personne est partie. Et si l'enfant se demande si elle reviendra, lui dire que non, mais qu'elle est partie définitivement. Mais que, bien sûr, en même temps qu'on dit la vérité sincèrement, directement et tranquillement aux enfants, on accepte leur réaction. Ils vont poser un certain nombre de questions et on les aide aussi à se consoler. Ce qui est le plus difficile pour les enfants, c'est que quand ils sont petits en particulier, devant le fait que c'est incompréhensible, par exemple, que quelqu'un de très proche parte, comme sa mère, son père, son frère, il arrive très fréquemment que les enfants se sentent coupables et qu'ils pensent que s'ils avaient respecté la parole du père ou de la mère, à ce moment-là, ça ne serait pas passé. Donc là, il est très très important de dire aux enfants que ce n'est pas ça qui a fait partir.
Vous voyez des enfants qui vous racontent ça ?
Ah oui, alors je pense vraiment par exemple à Boubacar qui devait avoir une dizaine d'années. Et Boubacar, il a perdu son père d'un accident cardiaque brutal. Et donc, il a tout de suite pensé, Boubacar, et il me l'a dit, mais il m'a dit, je peux le dire qu'à toi, parce que quand je le dis à ma mère ou surtout à ma sœur, elle ne me laisse pas parler. Mais je suis persuadée que mon père, il est parti parce que je n'ai pas respecté sa parole, parce que je n'ai pas pas été sage. Et donc, il a fallu que je discute avec lui de cette question. Mais il pensait aussi, et ça c'était un point important, que son père était mort parce qu'il était en France. Que s'il était resté dans la région de Caille où il était né, d'où venaient son père et sa mère, qu'il ne serait pas mort parce que son père disait toujours « là-bas, la vie est plus facile ». Donc vous voyez, toutes ces théories, il faut pouvoir les reprendre avec les enfants. Et alors je lui dis « mais que dit ta mère de cela ?» Et heureusement, sa mère lui disait quelque chose qui l'aidait beaucoup à tenir. Sa mère lui a dit que jamais on ne perd son père, en fait, qu'il suffit de s'adresser à lui quand on a besoin d'un conseil et qu'il vous le donnera. Et que en plus, lui, c'était l'homonyme de son père. Il porte le même prénom que lui. Alors, le lien avec son père sera toujours très, très fort. Donc, finalement, parler de la mort aux enfants, c'est aussi parler des manières de garder des liens avec les morts. Donc, on parle de la mort, mais on parle aussi de comment on dépasse, finalement, et comment on se console, et puis comment on accepte la transmission. Parce que ce qui fait que la mort est peut-être un peu moins difficile, c'est parce qu'on sait qu'on est un héritage, on a un héritage.
C'est ça, continuer à faire vivre ceux qui sont morts en disant à l'enfant ce qui peut le consoler de la mort d'un être cher, sans forcément déconstruire d'ailleurs toutes les raisons que l'enfant s'est bâties dans sa tête.
Sans les déconstruire, il faut surtout lui permettre de les exprimer et
ne pas le laisser se culpabiliser, bien sûr.
Se culpabiliser. Et puis l'associer au rituel, parce que les rituels, ça sert à ça aussi, à se consoler.
Merci beaucoup Marie-Rose Moreau, on se retrouve très prochainement pour une prochaine chronique. Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs. Et vous avez publié Nos enfants demain pour une société multiculturelle. Merci à vous Marie-Rose Moreau, merci à toute l'équipe aussi, Cécile Lavolo, Sophia Bédard, Romain Dubrac. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio, lundi 7 milliards de voisins. Comment survivre à l'hyperconsommation nord-américaine? Les conseils d'un Canadien devenu radin à ne pas manquer. On se retrouve lundi, merci à vous tous de votre fidélité, les voisins et les voisines.